Vous écoutez le Trèfle, le podcast francophone des Boston Celtics.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Trèfle. Titouan au micro pour faire le point sur la situation des Celtics. À l'heure où on enregistre, les Celtics viennent de se faire fraîchement éliminer du In-Season Tournament et affichent un bilan de 15 victoires pour 5 défaites. Les plus matheux d'entre vous auront fait le calcul, les Celtics ont donc joué 20 matchs. On est donc quasiment, on va dire, au quart de la saison. Le temps pour nous de faire un petit état des lieux maintenant qu'on a un échantillon de matchs relativement parlant. Et au menu aujourd'hui, un épisode un peu plus axé sur le collectif. On parlera évidemment des performances plus ou moins bonnes de certains joueurs, peut-être même de coaching, de rotation, de système. Mais dans l'épisode précédent, les collègues sont concentrés pas mal sur les individualités. Donc aujourd'hui, on va voir où en sont les Celtics, mais d'un point de vue un peu plus, on va dire, où en sont les Celtics en tant qu'équipe. Pour m'accompagner sur cet épisode, j'ai le plaisir, et c'est la première fois que ça arrive, j'ai le plaisir d'avoir tout simplement les deux rookies du podcast en même temps, Vincent et Azad. Salut les gars, comment ça va?
Salut, ça va mal. Je ne sais pas si on va se remettre de cette élimination en quart finale d'une season tournament. Moi, je suis défait. Non, je plaisante, j'en ai rien à foutre. Je suis un hater des nouveautés. Voilà.
Alors, Azad, est-ce que tu es de la team c'était mieux avant? Faut remettre le Est versus Ouest au All-Star Game, etc.
Ouais, je pense que j'ai contrairement à Vincent, j'ai pas encore 35 ans, mais je les ai peut-être déjà un peu dans ma tête. Et du coup, tu sais, moi, l'hiver, je suis déjà passé à la soupe, à la petite tisane avec du miel dedans pour pas attraper froid. Donc oui, moi, je préférais avant quand le All-Star Game, ça avait un sens, même si j'ai jamais été un grand fan du All-Star Game. Et j'ai pas été un grand fan du In-Season Tournament non plus. Surtout des parquets. Et j'avoue que le fait qu'on soit plus dedans, bah écoute, si ça peut éviter que Tatum se fasse une cheville sur un match important ou un truc comme ça, franchement, très bien qu'ils aillent jouer à Las Vegas. Nous, on prendra du repos en plus sans aucun problème. De toute façon, c'est pas vraiment ce qu'on jouait cette saison. Donc vraiment, ça aurait été un bonus, mais j'avoue que j'en ai un peu rien à secouer. Et pour le In-Season Tournament, je suis à fond derrière les Pelicans.
Et je vous conseille tout particulièrement le parquet de Las Vegas du meilleur goût. Bien flashy encore une fois dans la droite lignée des autres. Donc, nickel.
Celui des Pacers était déjà pas mal. Et du coup, comme Azad, on va supporter pour le In-Season Tournament les Pelicans, ne serait-ce que pour qu'ils éliminent les Lakers. Ce serait toujours un petit plaisir. Même si c'est vrai que je pense que de manière générale dans l'équipe du Trèfle on n'est pas des grands fans du In-Season Tournament, alors faudra voir sur le long terme, mais c'est vrai que c'était les comparses de Dunk Hebdo qu'on avait parlé et j'avais bien aimé leur analyse là-dessus qui comparait ça un peu à un mix entre de la Champions League et de la Coupe de la Ligue, donc la Coupe de la Ligue au foot en France, et qu'en fait le problème c'est qu'ils ont essayé d'imiter ça, mais il n'y a pas du tout les mêmes. Enfin, c'est des équipes d'un même championnat dans une ligue fermée en plus, donc t'as pas du tout les mêmes avantages, on va dire, et les mêmes qualités et défauts que ce que pouvaient avoir ces coupes dans le foot européen.
Enfin bref. Personnellement, j'ai pas envie de faire l'enfant gâté, mais ça fait on va dire 5 ans qu'on est proche du titre. C'est vrai que ça. Voilà. Pour l'instant, ça a très peu de valeur et c'est pour ça que j'y accorde pas d'importance. Nous, on joue un truc très grand qu'on espère avoir arrivé dans les années qui viennent. Et là, nous sortir un truc au milieu de la saison qui a pas encore de valeur, même si les mecs avaient l'air motivés, hein, ça c'est l'avantage. À mon avis, ils ont réussi leur coup de ce point de vue. Ils avaient l'air motivés. Si proche du titre, d'une fameuse bannière, le truc, tout ça, tous les flonflons, les finales, les avoir joués, ça a peu de saveur à mon goût. Enfin.
On est d'accord que je pense que c'est plus un tournoi qui, du moins pour les premières éditions, va plus intéresser des équipes de milieu de tableau, bah, typiquement les Pacers, donc qui ont éliminé
Ouais.
les Celtics, qui sont des équipes qui sont en fait trop fortes pour tanker, et mais qui ont conscience qu'ils sont pas assez, elles sont pas assez bonnes pour gagner le titre, et du coup ça leur donne un petit objectif plutôt que de vivre une saison dans le ventre mou, pardon, classique. De ce qu'on a pu voir avec des équipes comme, bah, comme Détroit à l'époque des, ou même Orlando, à l'époque de Evan et Vucevic. Mais bon, on n'est pas là pour parler du In-Season Tournament. Les rageux diront que, justement, on est des rageux et qu'on parle mal du In-Season Tournament parce qu'on a été éliminé et que si on était en finale, on parlerait autrement.
Une
Donc.
passe au play-in, j'aurais trouvé ça cool. J'aurais trouvé ça pas mal, genre une place au play-in assurée si tu gagnes le in-season tournament, tu vois.
Bah justement, alors
Mais.
c'est vrai que bon, on divague un peu, mais on peut faire une petite
Ouais.
parenthèse parce que je pense que cet épisode va pas durer éternellement non plus. Hein. Mais c'est vrai que je crois que c'est ce qu'on avait dit en interne. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que j'avais dit, c'est que au-delà du, c'était pas le in-season tournament en soi qui me gênait, c'était plus le la carotte en fait pour le rendre attractif. Et je trouvais que juste mettre une carotte d'un petit chèque, enfin d'un petit chèque, d'un gros chèque quand même, pour de simples moldus comme nous, pour prendre l'expression de Vincent, c'est vrai que je trouvais que mettre une carotte de style avoir l'avantage du terrain en playoff ou ouais, avoir une place pour le play-in ou un truc comme ça aurait été plus intéressant que juste un chèque. Ouais,
Un pic
moi.
30,5, moi je voulais.
Ouais ou un
Trois
premier
pics
tour, ouais.
sept.
Hein.
Tu vois, entre le Obsédé
30 et
par la
le 30.
draft et la mi-saison.
Ça.
Non, mais c'est vrai que par exemple, alors Hugo. Nous le dira mieux que nous, mais le dira mieux que nous. Mais en NFL, il y a ce système de pick compensatoire de draft en fonction. Alors, je sais plus quelles sont les raisons pour lesquelles des équipes peuvent être peuvent recevoir ces picks-là, mais en fonction de des joueurs que t'as qui n'ont pas pu jouer ou des choses comme ça, tu peux avoir des picks compensatoires à la draft en NFL. Et c'est vrai que j'aurais pu m'imaginer un système comme ça où l'équipe vainqueur remporte un pick de premier tour de toute fin de premier tour, par exemple. Ouais. Mais
Bon, à
bon.
voir. Ouais. Mais
Ouais, on
bon, de
verra
toute
les
façon, on n'y
années.
croit pas trop, quoi.
De toute
Mais
façon,
bon.
après le play-in, c'était pareil. Au début, les gens étaient un peu sceptiques et finalement ça a pris, donc à voir.
Ouais.
À
Play-in,
voir.
j'étais chaud, moi. Genre, je trouve ça cool le play-in, ouais. Mais bon, c'est encore un autre débat.
Les gars, on est là pour parler des Celtics qui
Let's
visent
go.
eux le vrai titre. Le vrai titre, pas le titre, pas la coupe Peach. C'est évidemment le titre NBA et ils sont plutôt pas mal avec 15 victoires, 5 défaites, même si évidemment on a ce petit goût amer de la défaite contre les Pacers. Les gars, avant, est-ce que vous voulez vous lancer directement? Je vais te lancer, Azad, en premier. Est-ce que tu veux te lancer directement dans les stats pures et dures ou tu veux juste dire un petit mot sur comment jouent les Celtics avant? Vas-y, fais-toi plaisir.
Moi, je trouve que pour me lancer un peu des fleurs, parce qu'il faut toujours un peu commencer par ça, je trouve que c'est la meilleure équipe de la ligue et j'étais assez sûr de ça avec la petite astérix quand Porzingis joue. Et en fait, le 5 titulaire, du coup, il est vraiment ultra dominateur et il paraît vraiment, que ce soit défensivement ou offensivement, je lui trouve très peu de défauts. Peut-être le seul défaut, c'est en attaque sur la créativité. Je trouve ça parfois un peu trop, soit trop scripté, et du coup, c'est un peu trop facile à lire. Et ça, c'est des défauts qu'on avait déjà l'année dernière. Soit alors avec pas assez de mouvement. Mais quand même, il y a le premier truc pour moi qui est important, c'est de se rendre compte que voilà, il y a vraiment une équipe qui joue le titre. C'est pas la question, on n'est pas dans la question de savoir si c'est des vrais contenders ou si c'est des favoris tiers B, tiers A ou quoi. Non, clairement, ça fait partie des meilleures équipes de la ligue. C'est la meilleure équipe depuis le début de saison. Et en attendant que Denver et Milwaukee se réveillent un peu plus, je pense qu'ils vont monter en régime au fur et à mesure. Pour l'instant, Boston, c'est clairement la meilleure équipe. Donc ça, c'est plutôt chouette parce que ça veut dire qu'il y a une belle équipe à regarder qui joue bien. Et j'ai trouvé surtout que du match 5 au match 15, on a commencé à mieux jouer. J'avais trouvé les 5 premiers matchs vraiment pas agréables à regarder. parce que ça manquait clairement de créativité. Et au fur et à mesure, ça s'est un peu plus développé le jeu offensif, parce que le jeu défensif a été impressionnant très vite, mais le jeu offensif s'est développé un peu plus. Et notamment, moi j'aime beaucoup l'axe Jaylen Brown-Porzingis en attaque, et leur capacité de jouer tous les deux, parce qu'ils s'offrent en fait beaucoup de choses l'un vers l'autre. Et ils peuvent jouer à deux sur des actions de pick and roll ou de pick and pop avec des stagger action, donc avec un screener en plus par exemple pour ajouter un peu de complexité, et aussi via des cuts quand il est utilisé un peu en hub Porzingis, c'est que bah, du coup Jaylen Brown il peut vraiment littéralement juste couper dans l'espace vide vers le panier, et ça donne des séquences vraiment chouettes et en plus très efficaces. Donc sur l'aspect global, je suis quand même plutôt positif. Je suis très positif sur la défense et je pense que c'est avec Minnesota la meilleure défense de la ligue. Et l'attaque, je pense qu'il y a encore un step à passer, mais il y a l'air d'avoir beaucoup de potentiel.
On va rester sur l'attaque. C'est vrai que je pense que c'est un peu la bonne surprise, même si au début on était un peu dubitatif, notamment quand on a fait au tout début de la saison, je pense notamment à Jaylen Brown. Et comme tu l'as dit, je trouve que c'est un peu la bonne surprise. On savait que les armes offensives, c'était pas le problème sur le papier. Je veux dire, Tatum, Brown, Porzingis, White, Holiday, sur le papier, il n'y a pas de raison que l'attaque n'arrive pas à scorer. Par contre, je suis agréablement surpris de la manière dont on score. C'est un jeu qui, même, alors c'est pas un jeu très beau à la Spurs Basketball comme on avait pu voir avant ou quoi que ce soit, mais on voit quand même certains systèmes, et encore une fois, je pense à Jaylen Brown, qui est de plus en plus utilisé loin du ballon, ou en tant que, bah, tu l'avais dit récemment, et je crois que tu l'avais mis sur Twitter, bah, pas plus tard qu'aujourd'hui ou hier, où on voyait du Jaylen Brown en tant que poseur d'écran. Chose qu'on voyait très rarement, voire pas du tout les années précédentes. Idem pour Jason Tatum. Donc je trouve ça assez intéressant de voir les Jays, qui ont été pendant très longtemps les dépositaires du jeu des Celtics, être finalement de plus en plus utilisés loin du ballon. Ce qui, bah, puis, enfin, forcément va devenir un casse-tête en fait pour les défenses adverses, parce que bah, tu as les deux. Potentiellement les deux meilleurs joueurs de ton équipe qui jouent loin du ballon, donc tu sais plus qui tu dois défendre, étant donné qu'au bout d'un moment tu dois quand même défendre ton porteur de balle. Donc ouais, ça c'est intéressant. Vincent, toi tu veux rajouter un petit truc avant qu'on rentre dans la partie un peu plus statistique de l'attaque
Ouais,
des Celtics?
je suis globalement comme vous, notamment sur l'attaque, avec pas mal de réserves quand même. Je trouve que c'est une équipe qui, tant qu'on lui laisse dérouler son jeu, sans trop l'agresser, elle est plutôt dans une zone de confort et ça score efficacement parce qu'il y a du talent partout, en quantité, même en volume. Je trouve qu'on a eu du mal sur les équipes très agressives ou qui nous rentrent dedans. Donc ça me fait un peu peur, sur des setups de playoffs. J'ai pas envie de rejouer Miami tout de suite, par exemple. Je trouve que quand on nous rentre dedans, c'est vite un peu plus la panique. Donc ça, c'est des défauts qu'on a déjà vus, hein, qu'on a déjà vus les dernières années. Donc j'ai quand même ce côté un peu frileux. C'est-à-dire qu'on est quand même une des top 10 attaques de la ligue. Je pense qu'on n'a aucun mec en surchauffe, voire même on a peut-être certains en sous-chauffe. Voilà. Mais je reste un peu inquiet sur les fins de match, notamment, et tout. On voit pas non plus. On peut pas dire que cette année on est un jeu transfiguré, comme vous disiez. Je trouve pas ça spécialement beau. En tout cas, beau par certains moments, certaines séquences. Je suis un peu plus réticent de ce côté du terrain, pour l'instant.
En fait, je trouve qu'on a un jeu qui est pas beau, mais qui est efficace, relativement efficace, voire même très efficace. De toute façon, bah, Azad, tu l'as dit, hein, mais on a une des meilleures attaques de, on a une des meilleures, si ce n'est la meilleure défense de la ligue avec Minnesota, et on a, il me semble qu'on a le, je vérifie, on a le 8e offensive rating de la ligue. Donc voilà, on est top 2 défense, top 8 attaque, donc ce qui est bon, voire très bon. Azad, toi, qu'est-ce que tu nous as. Quel stat, est-ce qu'il y a des choses que tu as notées en attaque dont tu as envie d'aborder, t'as envie de parler?
Bah déjà ouais, je voulais dire je rejoins le joint de le joint oula je rejoins le point
Et
de
pas dit.
Vincent. Je
On veut
rejoins le
pas
point de
savoir ce que tu as
Vincent.
fait avant d'enregistrer.
Sur le côté, on déroule un jeu dans une zone de confort assez tranquille. Et en fait, je pense que c'est des joueurs qui savent se créer une zone de confort parce qu'ils sont capables de plein de choses. Et visuellement, c'est vrai que c'est pas très beau par contre, mais Porzingis, il donne un côté un peu lunaire à cette attaque. Enfin, quand t'as les Jay plus deux gros guards comme Holiday et White, et t'as une espèce de licorne qui en plus est vachement plus mobile que les saisons passées et qui peut shooter de 2 mètres derrière la ligne, c'est ouf. Et du coup, c'est vrai que je pense qu'ils prennent un peu leur marque, mais parfois ils tombent un peu dans la facilité. Quand ils enchaînent des pick and pop avec Porzingis ou alors qu'ils le calent dans un corner et qu'ils ne créent pas vraiment de jeu, ils l'utilisent juste sur du drive and kick, c'est un peu dommage. Mais du coup, pour rentrer dans les stats et un peu pour rentrer sur le sujet Porzingis, on allait regarder un peu l'évolution des stats de fréquence, donc des stats qui peuvent se regarder très vite dans la saison parce que la fréquence, elle va te donner qu'est-ce que tu essayes de faire, plus de savoir si tu le fais bien ou pas. On va pas regarder les pourcentages à 3 points et les choses comme ça en termes de réussite, mais plutôt en termes de fréquence. Donc ça, c'est des stats qui sont intéressantes à regarder au bout de, voilà, 10-15 matchs dans la saison parce qu'il y a des choses qui se dégagent. Et du coup, on a fait un peu les comparatifs de l'année dernière à cette année. Donc on reste quand même sur des chiffres assez stables de manière générale parce qu'on a le même coach. Mais la grosse différence, c'est le nombre de post-up qu'on utilise. Et en fait, on est passé de 2,8 post-up à 6,7, donc de 3 à presque 7. Et on a plus que doublé notre nombre de post-up et en plus on a vachement augmenté notre efficacité là-dessus. Je crois que les deux joueurs les plus efficaces sur post-up cette saison, sur les joueurs qui en font plus de 2 par match, c'est Tatum et Porzingis. Et en fait, cet ajout, il vient beaucoup de Porzingis, mais il vient aussi de Jrue Holiday. Et là, dans les play types dont on parle, donc post-up, c'est seulement ceux qui finissent par du post-up. Et là où je trouve que c'est intéressant, c'est qu'on est capable du coup de finir sur du post-up où du coup on est la meilleure efficacité de la ligue et on a un volume qui est du coup presque 3 fois supérieur et au moins 2 fois supérieur à l'année dernière. Donc là, on gagne des points, mais c'est surtout qu'on crée de l'attaque par du post-up. Et c'est ça qui est hyper intéressant et que les stats ne montrent pas toujours parce que les stats, elles vont te montrer par quoi finit le jeu, enfin par quoi finit l'action, mais elle va pas te montrer par quoi elle a commencé par exemple. Et du coup, c'est important aussi de regarder les matchs et pas seulement ces stats-là pour comprendre un petit peu les choses dans son entièreté. Mais offensivement, c'est la grosse différence. Et il y a une autre différence un petit peu offensivement que moi j'ai noté, c'est sur les rebonds offensifs, on est un peu plus présent. On était une des dernières équipes au rebond offensif l'année dernière et cette année on est dans la moyenne. Du coup, on a augmenté notre fréquence au rebond offensif. Donc ça c'est pas que le ballon qui nous tombe dans les mains, ça veut dire qu'il y a un changement un peu de stratégie là-dessus offensivement. Et du coup, voilà, c'est peut-être parce qu'on est du coup un peu plus grand et qu'on a des joueurs qui peuvent se permettre de faire du coup 2 fois plus de post-up que l'année dernière et aussi d'aller plus chercher le rebond offensif.
Par contre, il y a. Alors là-dessus, on est d'accord. Par contre, moi, il y a une stat qui m'avait surprise un peu quand tu nous as montré un peu tes recherches. C'est le taux de lancer franc obtenu. En fait, j'étais assez étonné du fait d'avoir justement un Porzingis qui stretch, tu l'as dit, hein, qui est capable de shooter 2 mètres derrière la ligne à 3 points. J'étais étonné qu'on n'aille pas chercher plus les lancers francs que ça, finalement. Et je pensais que, parce que je trouve qu'on a un jeu, Mazzulla, on peut pas mal le critiquer sur plein de points, mais je trouve qu'il a, de manière générale, un jeu qui est pas mal basé sur l'analytique, où c'est beaucoup de 3 points, beaucoup de tirs proches du cercle et limiter, on va dire, le nombre de mid-range ou de shoot théoriquement peu rentable. Et j'étais étonné que le fait d'avoir ajouté du spacing avec un mec comme Porzingis, ça n'ait pas ouvert plus de lignes de drive ou du moins de permettre à des gars comme Tatum ou Brown d'aller chercher plus de lancers francs que l'année dernière.
Eh ben, on fait moins de drive. On fait moins de drive que
Ouais,
l'année dernière. En
justement, ouais.
fait, on est la 27e équipe à la fréquence au drive. On en fait 9 par match. Il n'y a que les Spurs et les Warriors qui en font moins. Alors que l'année dernière, en fait, au drive, on était pas une des plus gros, pas une des meilleures fréquences, mais on en faisait 11. Donc, tu as quand même une sacrée différence, tu vois, d'une année sur l'autre. Et c'est dommage parce qu'il y a de la place, en fait. Et tu vois, j'ai l'impression que ce spacing, on l'utilise pas assez. Et en fait, on l'utilise un peu trop de manière scolaire. Et je pense qu'il y aurait des choses un peu plus, avec un peu plus d'innovation à aller chercher. Et clairement, par exemple, tu vois, quand je regarde une équipe comme OKC qui fait faire poser des écrans assez petits, y a une séquence ou deux, je crois, contre Indiana, où c'est White qui vient poser l'écran avec un Tatum ou un Brand qui peuvent porter la balle ou en profiter, ou même des écrans entre Jrue Holiday et Derrick White. Et je pense qu'on a besoin de faire ça, on a besoin d'un peu innover, parce que c'est pas parce qu'on a un spacing qui est complètement dingue qu'on peut juste se reposer là-dessus. Il faut d'autres choses pour en profiter.
Ouais, je pense que vous venez de mettre le doigt là sur un truc super important, c'est le nombre de drives que moi perso je trouve beaucoup trop faible. C'est un truc que je vais reprocher à nos deux ailiers en fait, hein, tout simplement. Parfois, trop se reposer sur du pull-up alors qu'ils ont de la place. On est une des équipes aussi qui perdent plus de ballons sur drive. Donc ça vient des deux, ça vient de Brown Tatum. Et ça, c'est vraiment quelque chose de dommage parce que clairement, ça nous fait moins de lancers francs. Et moins de points proches du panier aussi. Donc c'est vraiment quelque chose qui me paraît mais super important à dire parce que je pense que c'est une de nos faiblesses tout court. C'est-à-dire que on a toujours ce côté, si nos trois points tombent pas dedans, on fait comment pour gagner? Et je pense que les drives et le spacing qu'on a qui est maximal à chaque fois, c'est là-dessus qu'il faut appuyer sur notamment certaines équipes qui ont pas de gros protecteurs de cercle. Des fois, moi, parfois, je rage de pas les afficher là-dessus, ces adversaires, et d'insister à outrance, notamment par Tatum, qui certains soirs paraît inarrêtable, et en plus, qui a tellement progressé proche du panier sur ses finitions, c'est vraiment dommage. Au contraire, Brown, qui cette année m'inquiète sur ses finitions proches du panier, ce qui était sa force énorme l'an dernier, qui cette année me paraît en grande difficulté pour finir sur ses finitions, tout simplement.
Surtout que. En plus, Tatum, une fois qu'il obtient les lancers, on l'a vu sur les derniers matchs, il a tendance à en lâcher un peu plus que d'habitude, je trouve.
Ah ben là, on est sur des 4. Alors, on arrive à être bon avec un Brown à 69% en lancer franc et un Tatum sous les 80 qui doit être sa pire marque en carrière. Quand je disais tout à l'heure qu'on n'avait aucun mec en surchauffe, je pense que c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'on est là, voilà, top 10 attaque en ratings. On n'a vraiment aucun mec en surchauffe. On a Jrue qui ne met pas un panier. Brown qui est dans sa une de qui est pas efficace pour l'instant, même si on va lui trouver plein de choses cool dans le jeu, et Tatum qui est dans ses standards actuels, on va dire, je pense. Donc on a aucun mec qui est en méga surchauffe,
ce qui est peut-être du coup une bonne nouvelle, parce qu'en fait on pourrait se dire que ce top 8 top 10 attaque de la ligue, en fait c'est notre niveau plancher, du moins c'est ce qu'on pourrait espérer. Ouais. Je sais pas du coup peut-être Vincent, si tu veux, si toi t'as une autre stat un peu offensive qui t'a.
Moi il faut qu'on parle du 3 points, parce qu'on parle toujours du 3 points avec nous, parce qu'on est l'équipe qui a le plus de 3 points de la ligue, et c'est trop apparemment. Donc globalement on est vraiment la première équipe en termes de ratio à prendre. 48,5% de nos tentatives sont à 3 points, donc ça c'est le premier constat. Moi, j'ai un peu mis le nez sous le capot pour voir un peu ce que c'était ces trois points qu'on prenait. Donc, faut savoir que globalement, cette petite moitié de tentatives qui sont à trois points, on va en avoir deux tirs en catch and shoot et un tir en pull-up. Donc, des tirs plus compliqués. En catch and shoot, on va aller shooter à environ 39%, en pull-up à 32%. Donc voilà. Et ensuite, sur toutes ces tentatives-là, on va en avoir environ 20% qui sont grandes ouvertes, 20% ouvertes et environ 8-9% ce qu'ils appellent tight, donc avec la main dans le visage. Et il faut savoir qu'en fait, nos pourcentages, ils sont vraiment très dégressifs. C'est-à-dire, sur toutes nos tentatives wide open, on les rentre à 42%. Et sur nos tentatives open, on les rentre à 34,7%. Donc ça, c'est toutes ces tentatives-là, pour moi, elles sont rentables. C'est-à-dire, sur un gros échantillon, si on arrive à trouver des catch and shoot ouverts, on va marquer beaucoup de points. Globalement, on va tirer environ 40%. Pour moi, la grande inconnue à chaque match, c'est est-ce qu'on arrive à créer des décalages et mettre nos shooters dans de bonnes conditions? Si on les met dans de bonnes conditions, la plupart du temps, ils vont les rentrer. Les Hauser, les Horford, les Porzingis, les Tatum en catch and shoot. Par exemple, tout ça, ça reste des excellents tirs parce que c'est des mecs qui, si on leur trouve des bons tirs, vont les rentrer la plupart du temps. Voilà. Donc ça, pour moi, c'est super important. J'estime qu'on fait pas n'importe quoi. J'estime par contre qu'on fait un peu trop de pull-up. Un peu trop de pull-up. Moi, je reproche souvent à Tatum d'en prendre un peu trop. Brown, pour moi, quand Brown ou Tatum prend un pull-up à 3 points, c'est une victoire de l'adversaire. Parce que globalement, ça fait. J'ai pas été checker les stats. L'année dernière, ils étaient 4 à les 2. Entre 29 et 30%. Cette année, Brown, il est à 29%. Il est pas au 30%. Et Tatum, j'ai pas été regardé. Mais de toute manière, je
Tatum
préfère.
Est un peu mieux, je crois, cette année.
Il est un peu mieux, mais je me demande s'il n'y a pas eu 2-3 matchs en surchauffe. On est encore sur des petits échantillons. Mais globalement, pour moi, c'est comme quand Embiid prend un 3 points. Pour moi, c'est une victoire de la défense. Pour moi, quand nos Jays ils prennent un pull-up à 3 points, pour moi, la défense, elle a gagné. Donc, on en prend beaucoup.
Est-ce qu'on peut parler des pull-ups de Jrue Holiday aussi, qu'on prend autant
aussi.
que Jalen Brown cette saison?
Après, historiquement, c'est quand même, j'allais dire, c'est des tirs à lui. C'est vrai que les
Bah
autres années,
ouais.
c'est des tirs qui prenaient beaucoup. Mais globalement, en fait, pour moi, si notre attaque doit progresser, ça sera par essayer de maximiser les bons tirs. Parce que je pense que si on a des bons tirs, on va les rentrer, clairement.
Plutôt d'accord, même si je serais pas aussi exigeant, on va dire, que toi, dans le sens où on le sait, après on sait aussi que c'est la NBA, que c'est une ligue de stars, et que un franchise player comme Tatum, il aura toujours ses pull-up à 3 points, ses tickets shoot. Et pour moi, tu as quand même certains joueurs, et je pense que Tatum en fait partie, qui ont le talent pour qu'en fait leur pull-up à 3 points soit pas. Si je reprends tes mots, tant une victoire de l'adversaire. Dans le sens où, enfin, je pense que moi, je suis l'adversaire, un Tatum qui pull up à 3 points, je me dis, il peut me le mettre sur la tronche quand même. Là où je suis plutôt d'accord avec toi, c'est ça va être sur quand tu parles d'un Embiid qui prend un 3 points ou des choses comme ça, bien sûr, il peut les mettre aussi. Mais il y a pas, enfin, je sais pas comment l'expliquer, mais il n'y a pas ce côté, je veux dire, c'est comme Luka Doncic qui fait un step back à 3 points, tu vois. C'est en soi, d'un point de vue statistique et analytique, il n'a pas des pourcentages sur ce très bons sur ces shoots-là, sur ces types de shoots-là. Et pourtant, moi, un Luka Doncic qui prend un step back à 3 points, bah, je suis, en tant qu'adversaire, je ne suis pas serein parce que je me dis, il va me le mettre en fait, ce con, tu vois. Et je pense que Tatum fait partie de ce genre de joueur-là. Par contre, je te rejoins sur les autres joueurs type Jalen Brown. Type Jrue Holiday, même si c'est vrai qu'on l'a beaucoup vu faire ça aussi à Milwaukee. Je pense que ce genre de joueurs-là n'ont pas le talent nécessaire pour qu'on se dise « Oui, vas-y, continue à en prendre 10 par match. » Bon, 10, c'est beaucoup, j'exagère, mais en quoi que
Jalen Brown... Non, les deux, ils sont à 2,6. Jalen Brown et Jrue Holiday, ils sont à 2,6 pull-up par match. Et Tatum, il en prend un peu plus de 5. Et ils sont tous assez nuls. Le moins mauvais, c'est Jrue Holiday au final, qui est même à 36% sur ses pull-ups, donc c'est plutôt bien. Mais on est l'équipe qu'on prend le plus cette saison. On est la seule équipe qu'on prend plus de 14 pull-ups par match sur la saison.
Ouais, on prend beaucoup de pull-ups. On est la quatrième équipe à faire le plus d'isolation. Quand on parlait d'une attaque parfois moche, on a trouvé des stats qui le montrent. C'est-à-dire qu'on n'est pas fan des isolations, même si en plus on n'est pas mauvais en efficacité en isolation. On est quasiment à un point par possession. Mais globalement, voilà, du pull-up, beaucoup de shot-making en fait. C'est ce qu'on va reprocher. Puis sur certaines séquences, on va dire. Je pense qu'il y a des séquences qui sont marquantes dans ce côté. Parfois les fins de match. On se rappelle de la fin de match contre Minnesota qui était franchement vilaine de ce point de vue.
Ouais, plutôt d'accord. Du coup, mais on l'a dit, un jeu plus moche, avec peut-être plus d'isolation, mais pas pour autant. D'ailleurs, on a plus d'isolation, mais pas beaucoup plus que l'année précédente.
Non.
Donc, mais par contre, peut-être plus efficace. Alors après, on sait que l'isolation, là, on parlait surtout des pull-ups à 3 points. On sait qu'il y a quand même un peu de variance, surtout sur ce genre de shoot-là. Est-ce que on n'aurait pas d'autres je pense à notamment pas mal de end-off ou de jeux comme ça, qui, moi personnellement, quelque chose qui m'a un peu déçu quand je regardais les stats, c'est le peu de la baisse justement sur ce genre de play où on pouvait se dire qu'avec un Porzingis un peu plus mobile, qui pouvait être utilisé un peu en porteur de balle entre guillemets, ou voilà, où l'attaque pouvait tourner autour de lui. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de justement des jeux type end-off avec Porzingis qui tient la balle, par exemple? J'ai été un peu déçu, moi je trouve qu'on a vu peu de jeux autour de Porzingis, du moins que ce à quoi je pouvais m'attendre.
Bah, franchement, moi je trouve qu'il n'y a pas assez, et je trouve surtout que quand il y a, c'est très bon. Et du coup, c'est un peu une double frustration parce que j'ai l'impression qu'il y a énormément de potentiel à aller chercher sur Porzingis plus impliqué dans le jeu. Et c'est, il crée en fait des brèches parce que en fait, sur Endoff, il est hyper dangereux parce qu'il a il a un vrai range et il peut vraiment punir de loin à 3 points. Donc ça veut dire que c'est même pas des end-off que tu es obligé de commencer à les blow, tu vois, au corner de la raquette. Tu peux commencer ton end-off vraiment loin. Tu peux le commencer de derrière la ligne à 3 points. Tu peux le commencer face au panier sur différents angles à 45. Et en plus, tu peux rajouter par exemple un stagger. Et ça, ils l'ont fait de temps en temps. Je pense que c'est ça qui me frustre le plus. C'est qu'il y a il y a des flashs de créativité tactique où tu vas avoir un premier mec qui va utiliser l'écran de Porzingis comme un pin down et un deuxième qui va y aller pour un end-off. Ou l'inverse, et il y en a un qui va feinter de prendre l'écran et qui va repartir au cercle. Et tu vois, toutes ces choses-là, elles sont hyper difficiles à défendre parce que on a des joueurs qui sont off-ball, des grosses menaces. White, c'est une grosse menace off-ball. Tatum et Brown aussi.
Oui,
Holiday off-ball, j'ai un peu plus de mal. Ouais.
je pense pas mal à Brown, justement, notamment sur
Ouais,
des. Enfin,
oui.
moi je sais qu'un schéma que j'adore avec Brown, et je trouve que, franchement, si tu dois le faire 10 fois dans le match, tu le fais 10 fois tant que ça marche. C'est justement typiquement un pin down où t'as Jalen qui remonte, qui prend un écran et qui réceptionne la balle lancée en direction du cercle, et là il est quasiment inarrêtable en fait quand il est lancé comme ça. Il a quasiment pas de dribble à poser ou juste un dribble pour se lancer, et enfin ouais, il est je le trouve vraiment trop fort quand il est comme ça.
Clairement, bah quand il est lancé, quoi. Et je pense que Vincent, il voit ça aussi. En plus, ce qu'on a pu voir, c'est qu'il y a même des flashs de playmaking où, sur des actions à deux, c'est tellement une cible facile, en fait, Porzingis sur des rolls au cercle ou même sur des alley-oops, que même Jalen Brown, il peut le trouver.
Mais oui,
Mais oui! Et du
on
coup,
l'a
bah,
vu.
pourquoi on le fait pas? Pourquoi on le fait pas plus, quoi?
C'était bien, c'est bien d'avoir vu 5 matchs sans Porzingis aussi. C'est-à-dire qu'on
Oui.
a vu ce que ça pouvait donner. T'as cité les stats des line-up et tout, qu'on était assez terrifiant et tout. Mais 5 matchs sans Porzingis, on a vu que ça jouait quand même. C'était moins évident. C'est plus comme l'année dernière, forcément, avec une grosse défense malgré tout, mais une attaque qui pataugeait un peu. Ça va faire du bien de le revoir. Mais clairement, faut insister. C'est ce qui va débloquer plein de trucs pour Brown en plus. On va apprécier le voir jouer et tout, ça va être cool. C'est pour ça
Moi,
qu'on a
j'aime
fait
beaucoup. J'aime
Porzingis.
beaucoup Brand et Porzingis en même temps sur le terrain, alors que je m'y attendais pas du tout. Et je suis agréablement surpris.
Et t'as parlé des cuts en début d'enregistrement, là, des cuts avec Porzingis qui trouve Brown backdoor notamment. C'est des trucs qu'il faisait constamment l'année dernière avec Bradley Beal. Donc c'est vraiment, et puis
Ouais.
c'est vraiment des points faciles. On a toujours réclamé depuis des années, enfin moi dans mon coin, des paniers faciles pour les Jays. Des
Ouais.
paniers faciles. Mais ça, quand il cut backdoor et qu'il va poser un gros tomard, ben, c'est des points faciles. Et quand il n'y a rien qui rentre, et ben, ça au moins c'est dedans.
Surtout qu'en plus, on a souvent loué, et je trouve qu'on l'a pas peut-être pas utilisé assez à mon goût, la qualité de passing de Robert Williams. Et Porzingis, c'est un joueur que j'avais vu un peu, oui, comme tout le monde, à New York, à Dallas, un peu à Washington, mais bah oui, je le cache pas, j'ai pas vu les 80 matchs de Washington l'année dernière. Désolé, mais c'est vrai que la qualité de passe de Porzingis, c'était quelque chose que je ne lui connaissais pas. Je savais qu'il avait des bonnes mains, il est grand, donc en gros, il a un peu les outils pour être très dangereux sur des plays où il est en tant que passeur, mais je ne savais pas s'il avait cette vision du jeu et cette vista un peu pour faire les bonnes passes dans le bon timing, au bon endroit, avec l'angle qu'il faut pour que le joueur qui réceptionne la balle soit dans les meilleures conditions pour marquer facilement. Et c'est vrai qu'on l'a vu, notamment avec Brown, vous l'avez dit, et je trouve que Porzingis a une qualité de passe qui est assez, je sais pas si j'utiliserais le mot sous-estimé, mais du moins, moi, je ne connaissais pas cette qualité de passe et je trouve qu'on devrait l'utiliser un peu plus souvent. Je suis plutôt d'accord avec vous là-dessus. Ouais.
Clairement. Surtout sur post-up aussi. Tu vois, quand il l'utilise pour avoir des mismatchs, parce qu'il crée beaucoup de mismatchs, c'était le but. Brad Stevens, il avait expliqué dans la conférence de presse après le trade de Marcus Smart qu'il voulait utiliser Porzingis pour créer des mismatchs. Bah, sur les mismatchs, il est vachement capable au post-up de faire des passes, en fait. Quand tu as un deuxième loulou qui arrive sur lui, il est capable de. Il est capable de punir clairement sur des double teams parce qu'il est tellement grand, il a des bonnes mains, puis c'est un mec qui s'inscrit bien dans le collectif. C'est moins un aspirateur à ballon que j'aurais pensé, vraiment moins. Moins que Jrue, par exemple, que je trouve qui a un peu plus de mal à s'impliquer dans l'attaque. Et là où Jrue, par contre, est très bon, c'est qu'il s'est très bien impliqué dans la défense.
C'est vrai, c'est vrai. Du coup, je pense qu'on a fait un bon petit tour de l'attaque. Je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose. Sinon, on va passer à l'aspect
Petite chose,
défense. Ouais.
juste toujours un peu d'amour pour Derrick White.
Oui, c'est
Tous
important.
les supporters méritent un Derrick White dans leur vie, on l'adore.
C'est vrai. Et je pense que les fans des Spurs peuvent qu'en être d'accord.
Voilà.
Du coup, on va passer à la défense. On l'a dit, une des meilleures, si ce n'est la meilleure défense de la ligue. On peut se battre avec Minnesota, si vous voulez. On a aussi ça sur le papier, on le savait, qu'on avait le 5 majeur pour avoir une défense élite, même si on a beaucoup décrié Jaylen Brown là-dessus et que d'ailleurs on continue à le faire, même si il faut avouer qu'il y a des progrès. Porzingis, on faisait pour la plupart partie de ceux qui trouvaient qu'il avait une très bonne rim protection, même s'il avait cette étiquette de mauvais défenseur qui lui collait un peu à la peau. Mais d'un point de vue collectif, Vincent, je te lance en premier, qu'est-ce que tu veux dire un peu sur la défense de Boston, justement?
Je veux dire que j'adore notre défense.
Voilà, fin de l'épisode, merci, à la
Ouais,
prochaine.
et vraiment, je vous la conseille. Donc, ouais, deuxième meilleur defensive rating de la ligue pour l'instant. C'est pas la première année hein, qu'on est élite en défense. Hein. C'est pas une nouveauté. Ce que j'aime cette année, c'est qu'il y a plein d'indicateurs qui, moi, quand j'ai regardé un peu tous les chiffres, où je trouve que ça a une défense qui est extrêmement sérieuse, qui est pas très agressive, mais qui est vraiment dans le contrôle. Et ça, enfin, c'est un truc, je me dis, on est dans le flow de la saison, on est sur le rythme de croisière de la défense, et en fait, il y a plein de trucs. On est une équipe qui inflige un effectif field goal percentage à l'adversaire assez bas, très bas. On concède très peu de lancers francs. Donc, c'est une autre bonne
Très
nouvelle.
peu.
Vu qu'on en prend peu, nous, nos matchs durent peu longtemps. Donc, ça, c'est une très bonne nouvelle pour nous. C'est un truc que j'adore. Donc ouais, on est la deuxième équipe qui concède le moins de lancers francs. On provoque quasiment pas de turnover par contre, parce qu'on n'est pas agressif. Et je me dis que ça, c'est un truc qui peut être upgradé en playoff. On imagine un Holiday capable d'être bien plus agressif sur le porteur de balle, mais pour l'instant, je pense pas que ce soit les consignes. Et on est une des équipes les plus sérieuses au rebond également. C'est-à-dire qu'on concède très très peu de rebonds offensifs. Donc ça fait vraiment équipe défensive de. J'allais dire vieux briscard qui est dans le contrôle, qui laisse rien de facile, qui a un personnel excellent, ça on le savait. Mais du coup, je suis hyper enthousiaste. J'ai l'impression que c'est une défense en plus on avait peur un peu avec Porzingis que ça soit très tout dans le drop et tout. Et je trouve que Mazzulla a tenté plein de trucs. En fait, autant je le trouve pas très créatif en attaque, autant en défense, on voit plein de choses. Il y a très peu de choses qui marchent pas du tout,
C'était
globalement.
lui, Robert Williams en Romer, non?
Ouais, enfin.
C'était, de ce que je crois, j'avais compris, c'était lui qui était pas mal derrière la défense d'Ime Udoka, je crois.
c'est particulier parce qu'il est arrivé avec une étiquette de coach d'attaque, c'est un peu lui qui l'a déclaré, alors qu'en fait, effectivement, ses meilleurs faits d'armes pour moi, c'est plutôt d'avoir une super défense. Et effectivement, ce qu'on nous avait rapporté, c'était que c'était lui qui avait un peu mis en place Robert Williams en Romer à l'époque. Mais vraiment hyper enthousiaste. Il y a plein d'autres petits points. Par exemple, on est top 10 dans les équipes qui concèdent le moins de points sur contre-attaque. Sur turnover et sur deuxième chance. Donc en fait, ça toujours pareil, du sérieux, du repli défensif, enfin des choses qui peuvent être, à mon avis, réplicables ben, tous les soirs quasiment. Et en fait, sur tous nos matchs, je pense, j'ai pas vu une fois la défense nulle contre Orlando où on avait l'air tout mou. Mais sinon, je pense que ouais, moi, j'ai pas vu le match contre Indiana. Mais et encore, on les maintient jusqu'à la fin du match assez bas en efficacité. Donc vraiment, vraiment excellent de ce point de vue.
Ça marche. Juste pour revenir sur Mazzulla, je pense que ce qu'il nous avait donné aussi, alors il l'avait déclaré, mais là où on a eu cette étiquette un peu de coach moins défensif que Ime Udoka et plus porté sur attaque, c'est que quand il y a eu le changement de coach, on est passé d'une défense qui était élite de chez élite sous Udoka et qui, à l'inverse, Udoka, son souci, c'était plutôt l'attaque. La première année de Mazzulla, on est arrivé sur une équipe qui était toujours bonne défensivement, mais on sentait qu'on avait, il n'y avait pas ce côté, cet élitisme qu'on avait avec Udoka. Et à l'inverse, on avait une attaque qui était beaucoup plus sympa à regarder et beaucoup plus efficace. Donc instinctivement, tu te dis, bon, bah, on a un coach qui est plus porté sur l'attaque que sur la défense. Et c'est vrai que c'est marrant de voir qu'en année 2, finalement, c'est plus du côté de la défense qu'on s'en sort le mieux. Azad, je sais pas si tu veux, toi, il y a quelque chose qui t'a sauté aux yeux, à part les navigations off-screen de White et Holiday.
Non, je vais juste dire que je suis pas trop d'accord avec Vincent sur un truc. Et
La bagarre.
la bagarre. Tu vas voir, ça va
Tu
vraiment pas
comprends, hein,
être.
c'est pas grave.
Non, mais c'est. En fait, je pense que c'est dans la lecture qu'on fait du pourcentage de turnover qui pourrait laisser croire qu'on n'est pas une défense agressive. En fait, je pense que c'est juste qu'on agresse d'une manière différente les attaques. Et tu vois, de poster Jrue Holiday sur Embiid, tu as même des passages où c'est. J'avais partagé un article qui le soulignait, où il y avait même des passages où c'était Pritchard qui était mis sur des joueurs plus grands. Tu as Hauser qui a commencé des séquences sur Yanis. Et en fait,
Ça, par contre, personne n'est choqué. Hein.
et du coup, en fait, tu crées. Donc, c'est pas de l'agression, c'est-à-dire que tu te jettes pas comme un mort-de-faim sur les lignes de passe, mais en fait, c'est pas de la non-agression dans un terme de passivité. C'est juste que tu vas pas essayer de générer des pertes de balles. Donc, tu vas avoir une défense assez conservatrice où tu vas essayer de limiter en fait le plus de tirs faciles possible. Mais du coup, en limitant les nombres de tirs faciles, tu décides de pas te jeter sur les lignes de passe. Mais je sais pas si je dirais que c'est pas agressif. Je dirais plutôt ouais, que c'est un peu conservateur.
Moi,
Ouais.
je dirais qu'on
Contrôle,
est.
en contrôle. Tu dis la même chose, mais avec plus de mots, c'est tout.
Alors du coup, moi, je vais me tenter avec d'autres mots pour dire la même chose, mais reformuler. Je nous trouve plus disciplinés. Et je pense que l'échange d'un Jrue à la place d'un Smart n'y est pas pour rien, dans le sens où on sait que Smart, c'était beaucoup de hustle, beaucoup de tentatives d'interception, souvent réussite. Et ouais, je me demande si on n'a pas juste une défense plus disciplinée et qui va moins chercher à faire des big plays, comme peuvent dire les Américains. Donc voilà, juste dire la même chose mais reformuler autrement.
Ouais. Donc
Histoire
on est bien
d'être.
meilleur sans Smart, hein, Azad.
Vas-y, laissez-moi tranquille. Non, par contre, c'est vrai que Porzingis, défensivement, je l'attendais pas dans un rôle de. En fait, je l'attendais au début dans un rôle de roamer, au tout début du trade, et on m'a dit non, mais en fait. Porzingis, c'est pas un défenseur, c'est pas un roamer, c'est un mec qui défend le drop. Donc après, je me suis dit, bon, bah, du coup, ça veut dire qu'on allait chercher Holiday, du coup, on va faire du drop. Et puis après, le fait qu'on ait trade Robert Williams, je me dis, bon, ils vont quand même pas arrêter complètement de faire cette technique de roamer, et je vois pas en quoi Porzingis pourrait ne pas le faire. Et en fait, Porzingis, putain, même sur des mismatchs où il se retrouve à défendre sur des porteurs de balles, il est pas si perdu que ça. Genre pour l'instant, en défense, enfin, moi je le trouve vraiment impressionnant. En attaque, tu le trouves impressionnant. C'est plus visuel l'impression qu'il donne parce que il apporte énormément de spacing. Enfin, j'avais fait une capture d'écran où j'avais garé un Rondo Master dans une raquette pour montrer à quel point il y avait du spacing quand il y avait Porzingis sur le terrain. Mais défensivement, par contre, il fait les choses bien, quoi. Je trouve que Porzingis, c'est très propre. Je m'attendais pas à un tel niveau de professionnalisme et en fait, il bonifie vraiment la défense. Et c'est facile, quoi. Et j'ai vraiment hâte, autant offensivement, j'ai pas hâte d'être en playoff, autant défensivement, j'ai vraiment hâte de me taper des gros matchs et de voir à quel point on peut annihiler des attaques adverses parce que franchement, le 5 majeur, c'est impressionnant. Et par contre, là où on perd défensivement, c'est le banc où je trouve qu'on, peut-être le meilleur défenseur du banc, bah, ça va finir par presque être Sam Hauser parce que Horford, je trouve que il a vieilli, ça y est, enfin. Enfin, malheureusement, enfin, il a vieilli, mais il se fait beaucoup attaquer sur du drop. Enfin, c'est devenu la cible un petit peu des attaques adverses, je trouve. Et par contre, Hauser, défensivement, et même Pritchard, que je porte pas dans mon cœur, a montré de bonnes choses. Donc, très impressionné par le collectif, quand même, offensivement. Quand on moins bon défenseur, ça devient à l'Horford, c'est que ça va, quoi.
C'est pas mal. En plus, on peut quand même compter sur lui, je pense, pour des missions. En fait, il pourra pas être tout le temps bon, mais on l'a quand même vu seul.
Ouais,
Donc
mais
sans
il sera bon pour le second tour des playoffs face aux Sixers. C'est tout ce qu'on a.
Ouais,
je sous-estime Brad Stevens d'avoir mis une clause dans son contrat, dans sa prolongation, en mettant, écoute, tu peux être nul pendant toute la saison régulière. Je te demande juste d'être bon pendant les matchs face aux Sixers. C'est tout.
Et en plus, il reste quand même le mec maintenant le plus fort au sol, je pense quand même du. Autant il peut plus sauter, vraiment, ça se voit, ça me fait de la peine. Il saute plus du tout. Par contre, il est tellement fort au sol et tout, et il a quand même fait des gros matchs quand il a été responsabilité. En fait, il est meilleur quand il est dans le 5, je trouve. Peut-être pas tout le temps, mais il a fait des bons matchs en étant dans le 5 quand Porzingis n'était pas là.
Ouais, je pense que pour s'attarder un peu sur Horford, oui, je pense que l'âge fait que en fait tu vas avoir 75% du temps un Horford qui va être mauvais ou du moins pas assez bon pour les standards de l'équipe défensivement. Mais je pense que il a des qualités intellectuelles, si je puis dire, et de compréhension de jeu qui font que tu sais qu'il fera les bons plays au bon moment quand il faudra en fait. Et je pense que ça, même s'il se fera saucer physiquement, faudra juste le mettre au frigo en fin de saison régulière, en fait. Tu le mets dans un bloc de cryogénisation là
Tu le
et on
fais
n'en
pas
parle
jouer
plus.
contre les Hawks, tu le fais pas jouer contre les Hawks au premier tour et tu le fais, tu le, il arrive à fond contre les Sixers, pépère.
Voilà, c'est ça.
Y avait une stat que je voulais ressortir aussi, c'est qu'on était l'équipe qui pour l'instant, là, on est qu'à 20 matchs, qui inflige la plus grosse perte d'efficacité au cercle de la ligue. On est premier, moins 5,5%. Donc c'est pas mal, donc on va penser à Porzingis. Et étonnamment, Cornette a plutôt des stats. Plutôt très bonne pour l'instant, avec un plus petit échantillon, il joue beaucoup moins. Mais
Et puis
lui, c'est
souvent
pareil.
il joue contre des bancs aussi.
Il joue des bons. Mais puis, enfin, il a eu des très mauvais passages, des meilleurs, donc je pense qu'il progresse aussi quand même, mine de rien, à force.
Oui, non, mais c'est juste que enfin quand on prend ce genre de stats, faut enfin je veux dire, tu peux
Oui,
pas
oui.
comparer la stat de Porzingis de défense de protection de cercle de Porzingis et celle de Cornette
Oui, c'est
vu
vrai.
qu'ils vont pas défendre les mêmes types de gars, on va dire. Mais oui, moi je suis d'accord que Cornette fait pas une saison catastrophique, même si oui, il y a eu des matchs plus compliqués, notamment contre Orlando, par exemple. Mais voilà. Bon, après, il y a récemment un petit débat sur est-ce que le problème des Celtics ne serait pas Cornette, le niveau de Cornette et Pritchard.
Bon,
Ça,
si c'est
c'est.
ça notre problème, bon,
Voilà,
pas très très
exactement.
grave en vrai,
J'espère qu'on l'aura pas ce soir, j'ai pas de billes, hein, je vous
Mais
le
disons que voilà, si je pense que là-dessus on est plutôt d'accord. Si ton problème numéro un c'est ton 9e joueur qui joue 10 minutes par match, bon, oh, ça va, il y a
Ça
pire.
peut le faire, ouais, clairement. Mais je suis content que Hauser, il ait plus de minutes que Pritchard et qu'il soit bien intégré dans le truc. Et pour compléter un peu la stat de Vincent, qui disait qu'on a infligé la plus grosse perte au cercle, aux réussites au cercle de la ligue. En plus de ça, en plus d'avoir la meilleure, enfin la pire réussite pour nos adversaires au cercle, ils ont aussi très peu de fréquence au cercle en fait. On est la cinquième équipe qui alloue entre guillemets le moins d'accès au cercle. Et en fait, les tirs qu'on protège le plus, c'est les corners et le cercle. Et on est, par exemple, tu vois, on est la troisième équipe qui prend le moins de corners des adversaires. Par contre, on est la 29e équipe qui prend le plus de 3 points qui sont pas dans le corner. Donc, tu as vraiment une défense très analytique, en fait. Et Mazzulla, c'est souvent ce qui lui est reproché en attaque, entre guillemets. Mais d'un côté, en défense, il applique les mêmes principes et personne ne lui casse les couilles parce qu'en vrai, ça fonctionne très bien. Donc, tu vois, c'est un tir intéressant, je trouve.
Donc, on résume effectivement notre défense. On provoque très peu de lancers francs. On protège très bien le panier. On concède très peu de corner 3. C'est l'analytics par définition, parce que j'ai envie de dire.
Ouais, c'est ça.
Surtout que moi, il y avait une autre stat que j'avais relevée, mais c'est une stat qui peut être à double tranchant. Mais alors là, avec les stats que vous venez de relever, ça, c'est encore plus criant. C'est qu'on est une des équipes qui fait le moins de fautes de la ligue.
Ouais.
Et alors souvent, on peut se dire, si tu fais pas de fautes, c'est peut-être parce que tu défends pas aussi. Là on voit que on défend justement, donc et notamment près du cercle, parce que c'est souvent près du cercle que tu fais le plus de fautes. C'est intéressant de voir qu'on est une des équipes qui autorise le moins de tirs au cercle, que en plus on protège le très très bien le cercle, et quand on le fait de manière on en revient à ce que je disais tout à l'heure, de manière très disciplinée. Donc ouais, si tu autorises peu de shoot au cercle, que le peu qu'il y a, tu le défends super bien et même sans faire de faute, tout s'explique quand tu regardes ensuite le classement des meilleures défenses, on va dire, si tant est qu'il y a un classement objectif.
Après, quand tu décortiques le roster, tes deux guards qui jouent le plus, ils sont exceptionnels en défense et en plus c'est intelligent. Tes deux ailiers, mis à part Brown, mais ils ont toujours, Tatum a toujours été excellent en défense et surtout intelligent aussi. Et Porzingis arrive à quoi, 28, 29 ans, peut-être dans le top de ce qu'il peut faire en défense, c'est-à-dire qu'il avait cette étiquette, mais un mec de 2m23 à 23 ans, c'est parfois compliqué de lui demander d'être brillant en défense, sachant qu'en plus il devait attaquer parce que lui c'était, il avait cette double casquette aussi. C'est presque logique.
Dans un roster de New York qui était.
Ouais, je trouve que c'est presque assez logique. Alors, ce qui est bien, c'est de voir que le papier se concrétise sur le terrain. Mais finalement, on est surtout surpris par Porzingis, en fait.
Franchement, je trouve que c'est Porzingis la plus grosse surprise, et dans le bon sens du terme. Alors, peut-être parce qu'on était trop pessimiste aussi. Mais d'un côté, sa seule bonne saison, elle est dans un contexte aux Wizards. Du coup, il jouait contre il jouait dans des stades vides, personne regardait. Genre, je suis sûr qu'il, enfin voilà, tu vois, ça intéressait personne. Et du coup, c'est pour ça que on était peut-être trop pessimistes, parce qu'en même temps, les seuls signes d'encouragement qui étaient donnés de sa part, il avait été dans des équipes vraiment pas terribles. Donc c'est très positif sur Porzingis. Il y a un dernier truc que j'aimerais noter en fait, moi, sur la défense et qui rejoint un peu l'attaque, c'est la transition. Et en fait, on est une super défense de transition. Donc, on en prend très peu, on laisse très peu de transition. On est genre septième à la fréquence en transition en défense, et on est deuxième en points marqués par adversaire en transition. Donc, on est vraiment genre une machine de guerre en transition, et c'est exactement les mêmes chiffres que l'année dernière. Par contre, moi, le seul truc peut-être qui pourrait me gêner dans notre défense, c'est qu'elle ne créait pas de transition de l'autre côté du terrain. Et l'année dernière, on était 26e à la fréquence en transition. Cette année, on est 19e. Et en fait, c'est assez rare d'avoir des attaques aussi bonnes qui créent aussi peu de transition. Donc, ça rejoint encore une fois notre défense. Il n'y a pas assez normal qu'on soit comme ça avec la défense qu'on a. Mais je trouve que, tu vois, c'est peut-être c'est le prix à payer pour cette bonne défense, du coup, de ne pas avoir de panier en transition. Mais quand tu vois les joueurs de transition qu'on a, et là je pense à Jalen Brown qui est vraiment un des meilleurs joueurs sur transition la saison dernière en termes d'efficacité, du coup c'est un peu dommage pour ça, je trouve.
On a souvent eu ce problème. Il me semble que l'année dernière, on en avait parlé déjà. Bah, je crois que c'est avec toi, Vincent, qu'on avait déjà abordé le sujet et qu'au début de saison, on avait déjà relevé ce souci qu'on était une équipe, bah, avec un Jaylen Brown, par exemple, pour ne citer que lui, très efficace en transition, mais qu'en fait, on en faisait juste pas assez, quoi. Et c'est vrai que c'était assez frustrant. Après, ça rejoint un peu ce qu'on disait au début du podcast, où déjà c'est encourageant parce que bah on voit que malgré le fait qu'on fasse peu de transitions qui sont bah très souvent donnent accès à des paniers faciles, malgré ça on a une attaque qui est bonne voire très bonne. Donc ça c'est encourageant pour les perspectives on va dire à court terme d'amélioration de notre attaque. Mais en plus est-ce que l'explication ça serait pas aussi qu'on a une équipe bah, qui est un peu plus stable et qui a un peu moins ce côté chien fou et ouais qu'on essaye d'avoir un jeu plus posé parce que je sais qu'on a beaucoup de jeux où on va avoir du Tatum ou du White qui vont emmener le ballon qui vont porter le ballon sur montée de balle et c'est pas des joueurs qui tapent des sprints de ouf balle en main quoi. Je veux dire, t'as pas un guard très un porteur de balle, même de manière générale, très
Dynamique.
électri et ouais, très dynamique, très électrisant, balle en main, tu vois, comme tu peux avoir avec un De'Aaron Fox ou un guard comme ça.
On n'a pas le lanceur en fait. Bon, c'est
Oui,
presque une question.
c'est
Je me
ça.
demande si juste on n'a pas le personnel pour lancer rapidement, que ça soit, je sais pas, ou alors l'intérieur qui prend le rebond, qui est capable de faire des passes, hein, à la Kevin Love, qui traverse le terrain, ou je sais pas, ou est-ce que c'est stratégique et que on veut rester très conservateur
Parce
et
qu'en fait,
garder
le seul
assez long.
dans notre personnel, celui qui serait le plus explosif pour accélérer, c'est Jaylen Brown, mais tu veux pas qu'il fasse sa balle en main parce qu'il va exploser mais sans la balle, en
Sans la
fait.
balle,
Il va
c'est exactement ce
partir,
que
mais
je
la balle
vois.
elle va rester dans ton camp, en fait.
C'est
C'est
tellement.
possible aussi. C'est
Il y en a
possible
combien qui
aussi que
rentrent
ce soit
dedans?
lié à ça.
Donc ouais, est-ce que c'est pas juste une question de personnel plus que de choix tactique? Je ne sais pas. Les gars, est-ce qu'il y a d'autres points que vous voulez aborder? Sinon, je pense qu'on a fait un bon petit tour.
Voilà, on a fait un bon tour, je trouve, hein. Presque 1 heure au final. Bon, on n'a pas commencé un peu sur le In-Season Tournament,
Ouais,
mais on
45
a fait
minutes
un.
sur le IST, ça c'était un peu beaucoup, mais.
Non, mais c'est bien parce qu'on dit toujours qu'il faut faire attention aux petits échantillons pour les stats NBA, mais les stats de fréquence, c'est des stats qui dépendent pas qu'ont pas de variance en fait, parce qu'en fait, c'est des stats un peu plus de, j'allais dire, de volonté, mais. C'est les équipes qui décident de jouer ainsi. Du coup, les
Sauf
stats de fréquence, là, sont.
si vraiment l'équipe se dit bah pendant 10 matchs on joue comme ça et au bout de 10 matchs on joue complètement autrement quoi.
Oui, bah après, voilà. Mais si nous, ça fait, tu vois, ça doit être le 100e match à peu près de Mazzulla. Donc, en gros, les fréquences, on voit qu'il y
Oui,
en a
oui,
où
oui.
c'est exactement les mêmes et on voit celles qui changent aussi. Du coup, c'est pour ça que c'est intéressant de regarder les stats de fréquence, qui sont parfois sous-utilisés, je trouve, dans l'hémisphère NBA. Et on parle beaucoup de stats de réussite, de pourcentage, d'efficacité et tout. Mais je trouve que les stats de fréquence et de play type et des choses comme ça, elles donnent aussi beaucoup d'indications sur la volonté. Enfin, voilà, au lieu de toujours parler de l'exécution et de la finalité, ça donne des stats sur qu'est-ce qu'ils ont essayé de faire, en fait, plus que
Ah,
qu'est-ce qu'ils ont réussi à faire.
tout à fait d'accord avec toi. C'est d'ailleurs ce qu'on avait dit quand on évoquait le cas Jaylen Brown. C'est que au-delà de savoir si ce qu'il fait est-ce qu'il arrive à être efficace dans ce qu'il fait ou quoi que ce soit, c'est important de savoir si ce qu'il fait c'est la bonne chose en fait. Surtout qu'en plus, surtout dans un sport comme le basket qui est un sport d'adresse et donc qui a forcément beaucoup de variance, c'est intéressant de savoir si ce que tu fais, est-ce que tu le fais bien? Enfin, est-ce que tu fais la bonne chose? Après, est-ce que cette chose paye? Ça, c'est une autre histoire. Ça peut dépendre de plusieurs paramètres, dont la variance qui est un gros paramètre. Mais savoir que tu es dans la bonne direction, que tu fais les bonnes choses, c'est déjà un bon point. Et après, bon, bah, l'efficacité souvent viendra avec le temps. Voilà, donc du coup, on peut dire que le mot d'ordre, c'est pas de panique, même si pour certains, l'élimination du in-season tournament est déjà synonyme de saison ratée. Mais en tout cas, voilà, donc une défense élite et une attaque bonne, voire très bonne, et qui en plus a
A
l'air
de la
d'être,
marge.
ouais, voilà, a de la marge. Donc je pense que c'est pas mal. Je fais une petite aparté pour vous dire, les gars. On en a parlé un peu off, qu'on est écouté à l'international désormais, puisque vous n'êtes pas sans savoir que je vis et travaille désormais en Allemagne et un de mes collègues de travail allemand donc écoute ce podcast. Donc je lui en avais parlé, je lui avais promis, donc je lui fais un petit clin d'œil. Donc, hi Jakob, ich hoffe der Podcast hat dir gut gefallen. Donc voilà, pour ceux qui veulent savoir ce que je viens de dire, c'était pas une insulte envers Azaz ou Vincent. Vous irez faire la traduction. Voilà, ça me permet d'étaler un peu mes progrès dans la langue allemande au passage en plus. En ce qui concerne le podcast, on fera sûrement un prochain point à la mi-saison. On verra sous quel format, on verra qui sera au micro. Les gars, je vous dis merci pour vos analyses toujours très pertinentes. Je vous souhaite à tous une bonne soirée ou journée ou matinée, je sais pas, en fonction de quand vous écoutez ça. Et je vous dis à la prochaine.
Merci, bonne soirée.
Ciao. Timeout. So many big shots for both teams, Jake.